RCF.
Et le journal nous est présenté par Thomas Dulin. Bonjour Thomas.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
En plein sommet de l'ONU, les tensions montent encore d'un cran entre la Russie et l'Occident.
La Russie a violé de manière éhontée les principes fondateurs des Nations Unies, déclarait hier Joe Biden. De son côté, le président ukrainien réclame une punition juste contre le Kremlin. Déclaration faite après l'annonce fracassante de Vladimir Poutine. 300 000 réservistes vont être mobilisés sur le front. La population craint le pire et fuit la Russie. La parole aux partis civils depuis le début de semaine au procès de l'attentat de Nice. Vous entendez dans ce journal l'incroyable témoignage de l'un des héros du 14 juillet 2016. Il a tenté de stopper le terroriste. Et puis la messe d'installation du père Michel Dauban se déroule ce matin à Lourdes. Il est le nouveau recteur du sanctuaire. Les déclarations choc se succèdent à la tribune de l'ONU après Emmanuel Macron mardi. Le président américain Joe Biden s'en est pris à son tour à l'ennemi public numéro un, Vladimir Poutine. Cette guerre anéantit le droit de l'Ukraine à exister tout simplement, a lancé le chef de la Maison Blanche à la tribune. Dans la soirée, c'était au tour du président ukrainien Volodymyr Zelensky de s'exprimer. Prise de parole anaphorique depuis Kiev, il exige une juste punition contre la Russie.
A crime has been committed against Ukraine, and we demand just punishment. The crime was committed against our state borders. The crime was committed against the lives of our people. The crime was committed against the dignity of our women and men. The crime was committed against the values that make you and me a community of the United Nations. And Ukraine demands punishment for trying to steal our territory. We count on your support. Russia should pay for this war with its assets. It's also a punishment. This is one of the most terrible punishments for Russian officials.
Voilà les déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant l'ONU. J'espère que les plus anglophones de nos auditeurs auront pu comprendre. On s'est trompé de son malheureusement sans la traduction. Il appelle donc une punition contre la Russie qu'il dénonce la Russie qui est responsable selon lui de nombreux crimes en Ukraine après des déclarations qui ont été faites après l'annonce de mobilisation partielle du peuple russe par Vladimir Poutine. 300 000 réservistes de l'armée sont appelés au combat, une annonce qui a déclenché des manifestations d'une ampleur inédite dans plusieurs villes russes. Plus d'un millier de personnes ont été arrêtées, une mobilisation qui semble par ailleurs terroriser la population dans le pays. Carole Grimaud est chercheuse et professeure de géopolitique de la Russie.
Cette annonce a fait l'effet d'un choc en Russie, même s'ils s'attendaient, ils s'attendent depuis longtemps, depuis le début du conflit. Cette ombre de la mobilisation plane depuis quelques semaines. Là, aujourd'hui, effectivement, c'est une échappée, je dirais, pour ceux qui le peuvent. Les avions sont tous complets pour sortir de la Russie, donc il y a de nombreuses personnes qui partent quand elles le peuvent encore. C'est un choc pour ceux qui étaient contre la guerre, bien évidemment. Il y a des manifestations qui se planifient donc pour aujourd'hui et les jours suivants à Moscou, malgré les interdictions, malgré les peines encourues. Et puis, vous avez une partie de la population qui se réjouit, qui appelait à la mobilisation depuis longtemps et qui se réjouit de voir que la Russie entre véritablement dans une guerre, entre guillemets, même si le mot n'est toujours pas prononcé. Mais effectivement, c'est un cran supplémentaire.
Carole Grimaud, chercheuse et professeure de géopolitique de la Russie, un cran supplémentaire dans la guerre qui n'a en tout cas pas empêché Kiev et Moscou de procéder au plus important échange de prisonniers depuis le début de l'offensive. L'Ukraine a ainsi pu récupérer 215 militaires, parmi lesquels de nombreux soldats ayant défendu la scierie Azovstal à Mariupol.
Retour en France avec la suite du procès de l'attentat de Nice.
Depuis le début de la semaine, les partis civils viennent témoigner à la barre pour raconter leur soirée du 14 juillet 2016 sur ce qu'ils ont vécu avant, pendant et après le passage meurtrier du camion Bélier sur la promenade des Anglais. Un drame qui a coûté la vie à 86 morts et qui a vu naître aussi des héros. C'est le cas de Gilles Gambéry, âgé aujourd'hui de 61 ans. Il a tenté d'arracher l'arme au terroriste à l'intérieur de la cabine du camion. Écoutez son témoignage.
Je ne pensais pas que c'était un acte terroriste. Et c'est arrivé sur le camion. À deux reprises, j'ai essayé d'ouvrir depuis le sol la portière du camion. Je n'y suis pas arrivé. Je suis monté sur le marchepied Et quand j'ai eu mon visage à la hauteur de la fenêtre, j'ai une arme qui m'est sortie devant. Je me suis débattu avec la personne à l'intérieur. J'ai compris de suite que là, c'était plus un accident, quoi. J'ai essayé de lui arracher le pistolet, mais je suis pas arrivé. Et quand je me suis précipité au sol pour me mettre à l'abri, j'ai entendu deux coups de feu. Je ne savais pas s'il m'avait tiré dessus ou dans une autre direction. Et c'est qu'à l'arrière du camion que j'ai pu vérifier que déjà j'étais pas touché. J'ai essayé de voir de quel côté il allait sortir du camion, et voyant qu'il ne sortait pas, je me suis précipité direction Nice Ouest. Et j'ai rencontré un policier qui arrivait en courant avec une arme à la main. Donc je l'ai stoppé en lui indiquant que je venais de me faire tirer dessus, qu'il était armé. Donc je lui ai indiqué la position que je pensais qu'il occupait dans la cabine du camion. Et il a fait feu à de multiples reprises dans la cabine.
Gilles Gambéry, parti civil au procès de l'attentat du 14 juillet 2016. Il était au micro de Stevlan Chézy-Gostovitch de RCF Nice Côte d'Azur. Quelle peine pour Bernard Laporte et Moed Altrad. Le tribunal correctionnel rendra son jugement le 13 décembre prochain. Le patron de la Fédération française de rugby et le président du club de Montpellier sont soupçonnés de corruption dans l'attribution du sponsor maillot du 15 de France. 3 ans de prison, dont un ferme, ont été requis contre les deux hommes. Nouvelle tension en Corse entre militants indépendantistes et forces de l'ordre. 6 mois jour pour jour après la mort en prison d'Ivan Colonna, 150 personnes se sont rassemblées hier soir devant la préfecture de Haute-Corse à Bastia. Des cocktails Molotov ont été jetés sur les policiers qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes.
Elle nous vient tout droit des États-Unis et s'installe doucement en Europe et en France.
Cette nouvelle tendance virale sur les réseaux sociaux, la démission silencieuse ou quiet quitting, le principe est simple, hein. Dénoncer dans des courtes vidéos la surcharge de travail et les journées à rallonge au bureau. Alors avant tout, cette démission silencieuse, c'est une posture, celle de faire le strict minimum au travail, bref, sans tenir en fait aux missions inscrites sur sa fiche de poste. Et si on en arrive là, c'est bien la faute de l'employeur, selon la philosophe du travail Céline Marty.
Il y a des horaires déclarés, il y a une durée légale du temps de travail. C'est pas un manque de conscience professionnelle que de respecter les conditions de travail qui sont fixées. Si le temps imparti est trop court pour les missions qu'on nous donne, il y a un problème de management, il y a un problème de charge de travail, mais ce n'est pas aux salariés individuellement d'endosser les conséquences de ce problème. Pourquoi ce serait manquer de conscience professionnelle que de respecter le droit et la fiche de poste? Finalement, c'est un peu aberrant qu'on se dise que quand on ne fait pas ce surengagement, on est devenu un mauvais travailleur. On marche un peu sur la tête quand on a fait de ce surengagement, de ce surinvestissement, la norme des pratiques de travail.
La démission silencieuse ou la nouvelle réalité du monde du travail, on en parlera plus en longueur à 7h15 dans le dossier de la rédaction. Après un été noir à l'hôpital et la fermeture de certains services d'urgence, les soignants de retour dans la rue ce jeudi avec des manifestations prévues un peu partout en France à l'appel de la CGT. Les soignants qui réclament plus de moyens, de meilleures conditions de travail, mais aussi la réintégration des professionnels non vaccinés. Emmanuel Macron est attendu à Saint-Nazaire ce jeudi. Il doit inaugurer le tout premier parc éolien du pays, le premier d'une longue série. L'Élysée voit ses éoliennes en mer comme l'une des solutions face à la crise énergétique. Après les annonces du gouvernement sur la fin de vie, l'heure des consultations, la ministre déléguée chargée des professions de santé reçoit depuis hier les représentants des cultes sur le sujet. Une délégation de la conférence des évêques de France sera reçue lundi prochain à l'Élysée.
RCF, il est 6h38, la messe d'installation du nouveau recteur de Lourdes aura lieu ce matin en la basilique du Rosaire.
Le père Michel Dauban a pris ses fonctions début septembre au sein de la cité mariale. Pour lui, c'est un peu un retour aux sources, un natif du Tarn-et-Garonne. Il a beaucoup fréquenté le sanctuaire dans sa jeunesse et c'est même là que sa vocation a peu à peu mûri. La priorité du père Michel Dauban en tant que nouveau recteur de Lourdes sera l'attention aux plus fragiles. On l'écoute.
La priorité des petits, des malades, des exclus, elle est absolue. Voilà. J'ai tenu d'ailleurs à ce titre à participer dans les tout premiers jours de septembre, je crois que c'était le 2 ou le 3, ça faisait 2 jours que j'étais là, à participer à l'anniversaire de la petite communauté du Tchénakolo qui accueille un certain nombre de personnes jeunes qui ont traversé, qui traversent des addictions diverses et variées, la drogue et autres. Voilà, pour dire aussi, pour signifier que dans ma mission de recteur, c'est tout à fait fondamental et que c'était fondamental par rapport à ce sanctuaire, voilà, que tout malade, tout handicapé, toute personne fragile puisse avoir toujours la première place ici à Lourdes.
Le père Michel Dauba, nouveau recteur du sanctuaire de Lourdes, vous l'entendrez plus en longueur. Dans l'actu chrétienne à 7h10, en sport du basket, c'est une décision pour le moins étonnante prise par l'international français Thomas Hurtel. Il s'est engagé hier pour 2 saisons avec le club russe du Zénith Saint-Pétersbourg et ne sera donc plus sélectionnable en équipe de France en raison d'une règle édictée par la fédération. Il compromet ainsi ses chances de participer au Mondial 2023 et même au JO de Paris en 2024. Et puis du football, à 2 mois de la très contestée Coupe du Monde au Qatar, l'équipe de France, minée par de nombreuses blessures, reçoit l'Autriche ce soir en Ligue des Nations. Le coup d'envoi est à 20h45. Clara.
C'était le journal signé Thomas Dulin. Merci beaucoup Thomas. À tout à l'heure, à 7h30 pour un nouveau journal.